Une paracha difficile, cette paracha de Koukat. On va commencer un peu par, pas par le début, parce qu'on commence toujours par le début, on n'avance pas. On est au chapitre Kaf, s'il vous plaît. Vayavou, Bnei Israël, Kol Haïda, Midbar Tzin, Bachodesh Arishon. Sont arrivés, toute la communauté est arrivée dans ce désert de Tzin le premier mois, c'est le mois de Nissan. Vayeshev Aham de Kadesh, on ne dit pas quelle année c'était. Ils ont séjourné à Kadesh, mais ce n'est pas le Kadesh, le premier Kadesh par lequel ils ont passé quand ils sont sortis d'Égypte. C'est un Kadesh ultérieur. Vatamot Sham Myriam. Et Myriam a disparu à ce moment-là. Donc c'est Myriam disparaît, alors elle est enterrée là-bas. Vatikaver Sham, et immédiatement la conséquence, c'est Velo Ayamaim Laïda. Et du coup, il n'y a plus d'eau. La communauté et la collectivité n'a plus d'eau. Vaikalu al Moshe et al Aharon. Et du coup, ils se sont tout de suite rassemblés autour de Moshe et d'Aaron. Et il vayarevaam im Moshe. Ils se sont disputés, le peuple s'est disputé avec Moshe. Vayomro, ils ont dit les mots, Lou gavanu bigva achenu lifne Hashem. Si seulement on était mort, comme nos frères, devant Hashem. Velama avetem et kaal Hashem el amidbar ze lamut sham anachnu beireinu. Velama elitanu mitzrayim laviotanu el amakom ara ze. לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות. ויבוא משה ואהרון, משה ואהרון, ils sont réfugiés en quelque sorte. מפני הקהל, à cause devant la pression de la communauté, אל פתח או אל מועד, ויפלו על פניהם, ils se sont prosternés. Vayirak vod Hashem alehem, et la gloire d'Hashem s'est manifestée sur eux, à cause d'eux probablement. Alors Rashi dit sur le fait qu'il n'y avait plus d'eau. Alors Rashi dit, c'est de là on apprend. Que jusque-là, ils n'ont pas manqué d'eau. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas manqué d'eau? Kol arba'im shana yalaem abe'er bisrut Myriam. Jusque-là, ils ont vécu avec un puits qui les a accompagnés par le mérite de Myriam. Le puits en question, on verra par la suite que le puits en question, c'était... En fait, c'était un rocher qui était mobile et qui n'était pas sur une source, mais la source elle-même était mobile aussi. D'accord. Toute la construction se déplaçait. En tout cas, il y avait de l'eau. Donc, les Bnei Israël, vous vous souvenez probablement. Les Bnei Israël, ils vivaient dans une bulle, dans le désert. Ils vivent, au-dessus d'eux, il y avait une nuée qui les protégeait, qui aplanissait, etc., qui faisait que rien ne s'usait, les vêtements ne s'usaient pas, les chaussures, etc. C'est la nourriture, c'était de la manne. Et l'eau, c'est l'eau du puits de Myriam. Donc là, de nouveau, enfin, on connaît un peu, mais cette chose assez extraordinaire que le clan Israël vit grâce à trois personnes de la même famille. C'est pour moi une... C'est étonnant. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est très étonnant. Le clan Israël a trois parnassim, c'est trois frères et sœurs d'un seul couple, finalement. Mais c'est pas seulement ça. Si on remonte en arrière, les avot et les imaot, elles viennent aussi d'un seul couple. Tout le monde vient descend. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde vient. Tout le monde descend là-bas. Les avot et les imaot descendent de Terach et de Amtela et sa femme. D'accord? C'est clair pour tout le monde?
Non.
Les Marottes aussi, oui. Bien sûr. Ils ont trois fils, Abraham. Quand il naît, il s'appelle Abraham. Il devient Abraham. Pardon? Amtelaï, il s'appelle. Il y a Abraham, Nahor. Abraham, il aura Yitzhak, et Yitzhak, il aura Yaakov. Voilà. Les Avot, c'est ça. Donc, ils descendent de Terach. Nahor, il a un fils, on s'appelle le fils de Nahor. Comment?
Bathuel.
Oui, Bathuel, oui.
Déjà,
tu vois.
Déjà, Bathuel.
Bathuel. Et Bathuel, il a un fils. Il s'appelle Laban. Et une fille qui s'appelle Rivka. Et Laban, il a deux filles. Une s'appelle Léa. L'autre s'appelle Rachel. Et Aram, il a une fille, il a un fils qui s'appelle Lot, et une fille qui s'appelle Sarah. Donc, vous avez Sarah, Sivka, Rachel, Léa, Léa, Abba, Imaot, et les Shloshavot, tout le monde descend, une paire de crapules. Pas plus parce que il y a un midrash qui dit que il y avait des mauvais malachim qui ne voulaient pas que la neshama d'Abraham elle descende dans le monde. Alors ils étaient toujours sur le qui-vive pour l'empêcher de descendre. Et au bout d'un moment ils se sont dit on peut faire mieux, on va la faire descendre dans un endroit où c'est sûr qu'elle ne remontera jamais. Alors on a cherché le couple le plus pourri qui soit. Le plus pourri qu'ils ont trouvé, c'est Terach et Amtela. Ils ont fait descendre la neshama d'Abraham en pensant jamais elle remontera. Mais non seulement elle est remontée, mais même avec les autres enfants, à eux tous, à eux trois, les trois fils de Terach et Amtela, je ne sais pas si c'est d'autres enfants, ils ont produit les Avot et les Imaot. Excusez du peu. Bon, alors, j'ai pas besoin de dire que si on veut remonter un peu plus haut, on descend tous de Noach et Nahama. Et si on veut monter encore un peu plus haut, on descend tous d'Adam et Chava. Tout ça, tout le monde sait. C'est quand même assez étonnant. Quoi. Bon. Adam et Chava, on comprend. Après le déluge, Noach et Nahama, on comprend aussi. Mais ici, il y a ce couple affreux, quoi, mais qui donne naissance à la perfection du pain. Les Avot et les Imaot du clan Israël. Et après, on a, bon, du coup, hein, comme si il fallait produire la Gemara demande comment c'est possible que de Terra puisse sortir Abraham. Hachem peut tout faire. Il peut faire sortir de la Touma, il peut faire sortir la Tahara. Et après, entre Amram et Yocheved, parents de. C'est le Dream Team du clan Israël, quoi. Moshe, Aaron et Myriam. C'est quand même étonnant, c'est. De la même tribu et même de la même famille. Les trois parlent le signe de clan Israël. Je comprends pas. Et là, non seulement on peut dire ils ont aidé le clan Israël en Égypte et tout, mais c'est bien plus que ça. Là, il y a quand même cette situation-là durant les tout le temps, quoi. Durant les 40 ans, le clan Israël a vécu sur le dos de Moshe, Aaron et Myriam. Alors Myriam meurt. Myriam décède et il n'y a plus d'eau. Alors, la vérité, c'est que par la suite, ils ont de nouveau eu de l'eau. Où est-ce qu'ils avaient l'eau? L'eau est revenue par le mérite d'Aaron. Donc pendant un certain temps, ils avaient les nuées de protection et l'eau qui était par le qui était du mérite d'Aaron, et la manne de celui de Moshe. Et Aaron, dans cette paracha, Aaron aussi va être niftar, va aussi disparaître. Et du coup, quand Aaron disparaît, alors il n'y a plus d'eau, et puis il n'y a plus de nuée. Et tout ça, ça va revenir bisrout Moshe. Et donc ça va accompagner les Bnei Israël jusqu'à la fin, par le mérite de Moshe Rabbeinu. Mais entre-temps, quand l'eau a disparu, les Bnei Israël, ils n'ont fait ni une ni deux, ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu, comme ils avaient l'habitude, dès que, ouais. Au point que Moshe et Aaron ont dû se réfugier dans le El Moed, ils ont dû se réfugier dans le Mishkan, quoi. Et puis il y a un célèbre, malheureusement, il y a une suite à ça. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, prends le bâton, pas clair si c'est le bâton de Moshe ou le bâton d'Aaron, prends le bâton, והקל את העדה, et rassemble la communauté, je traduis en général, communauté, Eda c'est une communauté témoignante, c'est construit sur la racine Ed, qui veut dire témoignage, enfin témoin. Donc une Eda, c'est une communauté témoignante, c'est la communauté des gens qui témoignent que Hachem a créé le monde, etc. Comme on. Voilà. Ata ve Aaron achicha, toi et Aaron ton frère, lisez bien, regardez bien, ve dibartem el asela leinehem. Et vous parlerez au rocher, aux yeux, donc devant les yeux, donc des Bnei Israël. Ve natan memav. Et le rocher donnera son eau. Veotset alaem maim minasela. Et tu sortiras pour eux va sortir pour eux de l'eau du rocher. Vishkita et Aeda vet Beiram. Et tu abreuveras la communauté témoignante et leurs troupeaux. Vaikach Moshe et Amate, Milifne Hashem, Kaasher Tzivao. Hashem a pris le bâton qui était devant Hashem, et comme Hashem le lui avait ordonné. Et puis il a commencé à haranguer les Bnei Israël. Et il leur a dit, Shimuna, écoutez donc, Amorim, ici c'est des rebelles, vous qui, Amorim c'est des gens qui veulent enseigner à leurs enseignants. Il leur a dit, Amina Sela Aze, Notzi Lachem Maim, est-ce qu'on va vous faire sortir de ce rocher-là de l'eau pour vous? Vayarem Moshe et Yado, Vayach et Asela. Moshe a levé sa main, il a frappé le rocher. Mais Matteo avec son bâton, pas un Maim par deux fois. Vayetsu maim rabim. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé. Vatesht aeda. Et la communauté a bu. Et les troupeaux aussi. Jusque-là, on a l'impression que bon. Ça va. Comme on dit là, jusqu'ici ça va. Mais maintenant ça va plus. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron. Hashem parle à Moshe et à Aaron, et c'est marqué Vayomer. Normalement, Vayomer, c'est une parole douce. C'est pas du tout du Vaïdaber. Non, Vayomer, il leur dit. Ya'an lo emantem bi le'adisheni, le'enev ne'Israël. Puisque vous ne m'avez pas fait confiance pour me sanctifier aux yeux des Bnei Israël, la haine, pour cette raison, לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. Vous n'amènerez pas cette communauté témoignante là vers le pays que je leur donnerai. Hema mem riva, ces eaux là sont appelées les eaux de la dispute. Asher ravu bnei Israël, dispute que les Bnei Israël ont faite, et Moshe, et Hashem, pardon. En fait, la dispute, elle était contre Hashem. Vaikadesh Bam, et Akadosh Baruch Hu a été sanctifié par ses eaux. Par ces eaux-là. Voilà. Moshe et Aaron sont condamnés à mort. C'est ça qui arrive, oui. Dans le texte, on voit bien que Moshe n'a pas fait exactement ce qu'Hachem lui a dit de faire, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi il dit, est-ce qu'on va vous sortir de l'eau pour vous de ce rocher? Mais pourquoi pas? Alors, on a besoin d'enseignement de Chazal. En tout cas, mon cher Rabbeinu avait reçu l'ordre de parler au rocher. Il a frappé le rocher. Mais, par exemple, on ne voit pas pourquoi Aaron était fautif. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron là-dedans?
C'est ça.
Ah ouais? Ah non? Ok, mais où est-ce qu'on voit ça? Dans l'action, c'est Moshe qui a frappé, c'est Moshe qui a harangué les Bnei Israël.
Dans ces cas-là, c'est un bidon, il aurait dû se poser à son frère.
Rashi. Regardez le Rashi. Rashi dit Aminasela Aze Notzi, le fils de Loayu Makirim Oto. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Myriam est Niftera, quand elle est décédée, le rocher qui accompagnait l'Ebné Israël, il est retourné parmi les autres rochers. Et Moshe Rabbeinu ne le connaissait pas, ce rocher. Le fils Allah Hasela Viashablo Ben Aslaim, quand il n'y avait plus le Be'er, il n'y avait plus le puits, donc Moyam n'était plus là. Vayu Israël Omrim Lahem Malachem Eze Sela Totsiu. Et les Bnei Israël, ils disaient à Moshe et à Aaron, qu'est-ce que ça peut bien vous faire? De quel rocher vous nous tirez de l'eau? Vous êtes capable de tirer de l'eau de n'importe quel rocher, alors? Pourquoi on attend? Pourquoi est-ce qu'on doit continuer d'avoir soif? Le kach amar lahem hamorim. Pour ça, Moshe Rabbeinu leur a dit, vous voulez enseigner vos enseignants, vous allez donner des leçons. Sarbanim, ça veut dire en fait rebelle. Morim et Moriem. Aminasela Aze, Shelo, Nitztavinu Alav, Notzilachem Maim. Le Midrash dit, il leur a dit, est-ce que de ce rocher, qui n'est pas le rocher sur lequel nous avons reçu l'ordre de tirer de l'eau, vous croyez qu'on va tirer de l'eau de ce rocher-là? Et tout de suite, le texte dit rien de plus, il dit, il a frappé le rocher deux fois. Pa'amaim. Le fichier barishona, l'eau aussi est la tipine. Parce qu'effectivement, au premier coup, il a sorti quelques gouttes. Le fichier l'eau aussi va à makom, la koto. Parce que Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit qu'il fallait le frapper. Donc le rocher était prêt à donner de l'eau, si on lui parle. Elle avait dit, bartem el sela, vous parlerez au sela. Vema dibru el sela acher. Velo otsi. Et Moshe et Aaron se sont trompés, ils ont parlé à un autre rocher. Et l'autre rocher, n'ayant pas reçu l'ordre de donner de l'eau, il n'a pas donné d'eau. Azambo shema tsarech lakoto kivarishona. Alors ils se sont dit, mais la première fois qu'il n'y avait pas eu d'eau, Hachem nous avait dit, frappez le rocher. Peut-être qu'ici, il faut aussi le frapper. Shenemar vikita batsur, c'est marqué dans le Sefer Shemot, tu frapperas le rocher. Nisdaem lahem oto sela vikau. Alors c'est ce même rocher qui avait répondu au coup, s'est présenté en quelque sorte, il l'a frappé, il a donné de l'eau. Yan lo emantem bi, parce que vous ne m'avez pas fait confiance. Lashon emuna. Gila akatuv sheilule chet ze bilvad ayu nichnasim laaretz. Le verset ici dévoile, dit Rashi, que si ce n'était cette faute là, Aaron et Moshe Rabbeinu seraient entrés en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la question qui se pose, c'est peut-être ils vont mourir simplement parce que c'est leur vie est terminée. On ne meurt pas toujours d'une sanction. On peut mourir. Il avait 120 ans, il est mort. Mais kedesh lo yomru aleihem ki avon shar dor amidbar shenigzar aleihem shulikantsu laaretz kach haya avon Moshe ve'Aaron. normalement, ils n'auraient pas dû mourir. Ils n'auraient pas dû mourir parce que s'ils étaient morts, on aurait dit que Moshe et Aaron ont fait la même faute que tous les hommes qui sont morts dans le désert à ce moment-là. Pour qu'on ne puisse pas dire une chose pareille, ils seraient entrés en Eretz Israël. Mais maintenant, il y a une autre faute, et donc on ne dira pas que... Maintenant, on sait pour quelle faute ils vont mourir, du coup, ils vont effectivement mourir. Il y a un petit problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il s'était aussi exprimé d'une façon inadéquate. Quand les Bnei Israël ont réclamé de la viande, alors Moshe Rabbeinu avait dit « Atson ou Bakar Ishachet » Est-ce que ça ne sera jamais suffisant, même si je tuais tout le petit et le gros bétail? J'aurais pas de quoi nourrir tout le plat d'Israël avec de la viande. Et Rachid dit que cette façon qu'il a eue de parler à Hachem, d'accord, c'était plus grave, semble-t-il, que ce qu'il a fait là. Et là-bas, il n'a pas été sanctionné. Alors Rachid explique que là-bas, il n'a pas été sanctionné parce que ça s'est fait discrètement. C'était uniquement entre Hachem et lui. C'est lui qui a dit à Hachem, ça marche pas. Mais ici, c'est public. Le Hagdi Sheini, vous auriez dû profiter, c'était un moment pour me sanctifier. C'est-à-dire, Sheil ou Dibartem el Asela, Vehotsi, si vous aviez parlé au Sela, au rocher, et qu'il ait produit de l'eau, Haïti me kudash le ene haeda, j'aurais été sanctifié aux yeux de la communauté. Les Juifs, ils auraient fait le Kalvachomer suivant, ils auraient dit, si déjà ce rocher qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui a besoin de rien, qui accomplit la volonté d'Hachem, Kalvachomer à nous, alors à plus forte raison qu'on doit faire la volonté d'Hachem. Parce que nous parlons et on a besoin d'Hachem. La reine, pour cette raison, l'otaviou, donc l'ishvoua, Hachem a juré qu'il n'entrerait pas. La reine ishbati le beteli, c'est la reine veut dire qu'il a juré. Et pourquoi il a juré? Chez lo yarbu betfila alkach. Pour que ils se mettent pas à prier, et en priant à ce sujet-là, ils seraient capables de faire annuler le décret qui les empêche d'entrer. Donc, comme si Hachem s'était verrouillé, en quelque sorte. J'ai juré, je peux lui revenir en arrière. Emma même Riva, ce sont les eaux de dispute. Et Rachid dit, Emma Niskarim Makomacher. Emma, ceux-là, ces eaux-là, sont les eaux. Alors pourquoi celles-là? Parce que c'est les eaux dont on a déjà parlé ailleurs. Quand est-ce qu'on a parlé de ces eaux? Et elu raou itstagdine paro, chez Moshian, chez l'Israël, loke bemaim. Vous vous souvenez, les astrologues de Paro, ils ont vu que la faiblesse du sauveur d'Israël, c'était l'eau. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu noyer les petits garçons, en pensant que s'il était là, il ne s'en remettrait pas, parce que c'était sa faiblesse, l'eau. Alors c'est ça la faiblesse qu'ils ont vue. Le kar gazrou kolaben aïloud aïeura tachlekou, ça ils ont décidé de noyer tous les enfants. Vaikadesh bam. Et malgré tout, le Kiddush Hashem, il a eu lieu quand même. Shemetu Moshe ve'Aaron al yadam. À cause de cette histoire d'eau, Moshe et Aaron sont morts. שכשהקדוש ברוך הוא עושה דין במקודושיו, הוא אז יהיו הוא מתקדש על הבריות, כן הוא אומר נורא אלוקים ממקדשך, כן הוא אומר בקרובי הקדש. On voit que quand les proches d'Hachem meurent, Hachem s'en trouve sanctifié. Vous comprenez un petit peu pourquoi c'est, comment est-ce qu'elle marche cette sanctification. Moshe Rabbeinu et Aaron, ils étaient en permanence entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Ils dialoguaient avec Hachem, ils dialoguaient avec les bénis Israël, ils faisaient l'interface. Ça veut dire que la distance entre les bénis Israël et Akadosh Baruch Hu, elle était réduite par la présence de Moshe et d'Aaron. D'accord ? Ça veut dire qu'il y avait une étape. Les bénis Israël, ce qu'ils voyaient, ils voyaient Moshe et Aaron au-dessus d'eux. Et du coup, il n'apercevait pas, en quelque sorte, la hauteur divine, parce qu'elle était réduite par l'échelon Moshe et Aaron, si vous voulez. Et donc, quand Moshe et Aaron disparaissent, alors les bnei Israël, ils prennent conscience de la hauteur divine. Ils ont devant eux toute la hauteur. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Kadosh, ça veut dire séparé. Donc Hachem apparaît encore plus séparé d'eux, d'accord ? Parce qu'avant, ils étaient moins séparés, parce qu'eux, ils devaient seulement regarder jusqu'à Moshe, et Moshe faisait le reste du travail. Mais maintenant, si on enlève Moshe et Aaron, alors toute la hauteur est libre devant les bnei Israël, et c'est ça, Vaikadesh, bam, Akadosh Baruch Hu est plus Mekudash, il est plus visiblement séparé des bnei Israël qu'il ne l'était quand Moshe Rabbeinu était leur intermédiaire. Et c'est ça, Vaikadesh Bam. Alors, la question, c'était, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire de parole? Je crois qu'on peut essayer de se le représenter de la manière suivante. Le bâton en question, ce bâton, il avait des connotations magiques. D'accord? Si, je ne sais pas quel est, si c'était le bâton d'Aaron ou le bâton de Moshe Rabbeinu, mais de toute manière, c'est un bâton avec lequel des miracles se faisaient. Donc si vous voulez, c'est comme si le bâton était un bâton de magicien, en fait. Par exemple, s'il s'agit du bâton d'Aaron, quand il a jeté le bâton sur le sol, il est devenu un serpent, et qu'ensuite il est redevenu un bâton, et en tant que bâton, il a avalé les serpents de l'école de magie d'Égypte. C'est le bâton, il a des connotations de bâton magique. Alors, et Paro, il l'a pris pour un bâton de magie. C'est pour ça qu'il lui a dit, si tu viens m'apporter de la magie ici, on n'apporte pas de la magie en Égypte, c'est nous les spécialistes de la magie, qu'est-ce que tu viens nous raconter? Avec tes petits-enfants, ils font la même chose que toi. Il n'a rien vu, Paro. Parce qu'il n'a pas du tout vu que c'est le bâton qui a avalé les serpents, et pas le serpent de Moshe qui a avalé les autres serpents. Les gosses, ils sont venus avec des serpents qui étaient drogués, ils les ont jetés par terre, du coup, ça les a réveillés, et il y avait des serpents par terre. Donc, ils faisaient comme si c'était la même chose que ce que Moshe avait fait. Mais Moshe, il n'a pas fait de la magie. Moshe, son bâton, il est vraiment devenu un serpent, puis ensuite, il est redevenu un bâton, et sous forme de bâton, il a avalé, mais ça, Pharaon, il ne regardait plus parce qu'il avait... Bon, c'est rien, ce que tu m'amènes la magie ici en Égypte, tu ne vas pas m'impressionner avec ça. Ensuite, la deuxième occurrence du bâton, c'est au passage de la mer. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, étends ta main, et donc tu vas ouvrir la mer. Donc Moshe Rabbeinu a pris son bâton qui était la prolongation de la main. Là, du coup, c'était plus de la magie réellement, parce que c'était la main, qui était un peu prolongé. Et maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi Hachem lui prend le bâton? S'il s'agit de parler au, rocher, il a besoin du bâton. Pourquoi il a dû prendre le bâton? Il faut comprendre qu'il lui a dit, prends le bâton, et ostensiblement, tu mettras le bâton de côté, pour que les Bnei Israël voient bien que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas de la magie. On met le bâton, donc tu pourrais penser, donc il pouvait penser qu'il a à voir avec de la magie, maintenant tu vas seulement parler. Et donc, il fallait montrer aux Bnei Israël que la parole d'Hachem, puisque Moshe Rabbeinu allait parler sur l'ordre d'Hachem, donc c'est la parole d'Hachem, quand elle est prononcée par quelqu'un qui la prononce parce qu'Hachem lui a ordonné de la prononcer, elle a un effet comme la parole divine, quoi. Ça veut dire que le monde va changer, comme Hachem dit « Yehi or », etc. Ben là, il va dire au rocher « Donne de l'eau ». Et ça, ça aurait été un kiddush Hachem. Hachem dit, ce qu'on a lu dans Rashi, Hachem a dit « Si vous aviez fait ça, alors j'aurais été sanctifié, parce qu'à ce moment-là, on aurait bien vu que ce n'est pas de la magie, et donc ça aurait montré la toute-puissance d'Hachem, donc la hauteur d'Hachem, si vous voulez, et il y aurait eu sanctification. Alors, quand Hachem décide qu'il y aura sanctification quelque part, la sanctification, elle a lieu de toute manière, avec nous ou contre nous, éventuellement. Donc, ça n'a pas eu lieu avec Moshe et Aaron, et ça s'est fait contre Moshe et Aaron. C'est-à-dire qu'il pouvait être l'instrument de la sanctification en parlant au rocher, mais de toute manière, ils allaient être l'instrument de la sanctification par leur mort, ici, comme pour rétablir la hauteur complète. C'est ce qui s'est passé là. Donc, si vous voulez, en frappant avec le rocher, avec le bâton le rocher, Moshe Rabbeinu a en quelque sorte régressé, quoi. Il est revenu à l'époque... peut-être même avant Kriyat Yam Souf, à l'époque du bâton où il fallait frapper. À ce moment-là, on était à un moment où il fallait frapper, donc frapper avec un bâton, c'est un peu de la magie. Alors, le Rashi dit qu'ils se sont trompés. Quand ils ont vu que le rocher ne répondait pas, ils se sont trompés. Et malgré tout, ça leur est reproché comme s'ils avaient fait exprès de ne pas parler au rocher. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont trompés de rocher. Ils ont parlé au rocher, mais pas au bon. Du coup, il n'a rien donné, évidemment. Parce que le rocher, il n'était pas... Il n'avait pas d'eau à donner, celui-là. Il donnait son eau seulement si on le frappait. Il n'a pas répondu. Ils ont cru que, bon, il fallait parler, puis ensuite frapper. Mais semble-t-il, Hachem, il prend ça comme un manque de confiance. « Lo he'emantem bi » Vous ne m'avez pas fait confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu parles et ça ne marche pas, il faut continuer de parler. Ou alors il faut demander à Hachem est-ce que je me suis trompé, etc. Mais il n'y a pas à changer. Tu vas utiliser ce que tu sais faire, tu vas frapper, tu vas dire, ah ben on est revenu à la situation de l'ancien rocher. On n'avance pas si on revient à l'ancien rocher. On ne voit pas dans le texte du tout, mais on ne comprend rien sinon. On ne comprend pas l'Oeman Tembi. Ah, on ne comprend pas, il a frappé. Mais pourquoi il a frappé, Moshe Rabbeinu? C'est impensable d'imaginer que Moshe Rabbeinu, a priori, au lieu de parler, il a frappé. Non, il s'est mis en colère, Moshe Rabbeinu. Il s'est mis en colère quand il a dit Shimuna Amorim. Et c'est pour ça qu'il s'est trompé de rocher. Non, il s'est trompé de rocher. Le rocher, dans la colère, il n'a pas distingué, ou le rocher n'était pas facilement distinguable, puisqu'il était retourné à se mettre parmi les autres rochers. Donc il aurait dû ou bien prier pour que Hachem lui indique le rocher, en disant, ben voilà, je vais parler à ce rocher, il ne donne pas d'eau, donc il y a un problème. Mais il s'est mis en colère parce que le peuple voulait, allez, t'as qu'à frapper n'importe quel rocher, tu n'es pas capable de l'eau. Alors Moshe a commencé par dire, mais ce rocher-là, on ne va pas croyez que je peux frapper n'importe quel rocher, enfin, de n'importe quel rocher on peut avoir de l'eau, on ne peut pas avoir de l'eau de n'importe quel rocher.
Mais alors, si c'est comme ça, c'est quand même une faute, elle n'est pas colossale, cette faute.
Non, mais elle n'est pas colossale. Elle n'est pas colossale, les fautes que...
Oui. Hachem lui a dit quand même.
Mais non, mais il a frappé après. Il n'aurait pas dû frapper. Hachem lui a dit, il ne pouvait pas. Si Hachem lui a dit, tu parles, donc il faut parler aussi longtemps qu'il faut parler. Il n'y a pas, Hachem l'aurait dit, tu parles et si ça ne marche pas, tu frappes. Non, tu parles. Et donc ça, c'est une leçon très importante parce que ça veut dire que même Beshogeg, même par erreur en quelque sorte, quand on désobéit à Hachem, ça a des conséquences. Et chez lui, ça, comme c'est Moshe et Aaron, ça, en réalité, ça ne pardonne pas.
Et donc c'est d'après vous pour cela que tu dis, vous n'avez pas...
On ne m'a pas fait confiance, oui. La confiance, c'est, si je t'ai dit de parler, c'est que ça va marcher en parlant. Maintenant, on peut aussi dire que... On a l'impression que la sanction, elle est sans commune mesure avec la faute. Mais peut-être que il faut ajouter ce qu'on avait dit en passant. C'est qu'en réalité, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils auraient dû mourir maintenant. Ils sont arrivés au terme de leur vie. Toute la raison pour laquelle on ne pouvait pas les faire mourir en leur temps, c'est parce que sinon on aurait assimilé leur mort à la mort de tout le monde. Et maintenant qu'on a trouvé un prétexte, d'accord, pour dire qu'il meurt à cause de ça et pas à cause de la faute de, comme la faute des Meraglim, il ne faut pas grand chose pour suffisait d'avoir un prétexte pour interpréter autrement la mort de Moshe Rabbeinu. Et puisque tout le monde avait vu que Moshe Rabbeinu avait frappé plutôt que parlé, c'était suffisant, hein, voilà, pour qu'il n'entre pas. Maintenant, on peut le faire mourir sans que ce soit mal interprété. Aïe, c'est sans commune mesure, ça, c'est déjà Moshe Rabbeinu qui s'arrangera avec Hachem. La mort de Moshe Rabbeinu, pour Moshe Rabbeinu, c'est, je pense qu'il savait très bien ce que c'était. Il a demandé, on va voir, Aaron va mourir, oui, dans ses parachats. Et Moshe sera là, regardez-le. Dans le paragraphe d'après, là, quasiment, ils sont partis de Kadesh, ils sont arrivés à Hor Ahar, la montagne de la montagne, je sais pas. Et, non, c'est pas la lumière. Hor, c'est avec un He. C'est pas la lumière, c'est pas Aleph. C'est Hor, comme deux fois Har, si vous voulez. Montagne de montagne. Et à ce moment-là, va Yomer Hashem el Moshe vel Aaron, à Horahar, sur la limite du pays d'Édom, il lui a dit, voilà, Aaron va être, comme on dit, ramené vers son peuple, puisqu'il ne va pas, là il dit, puisqu'il ne va pas entrer en Eretz Israël, vers le pays que j'ai donné au Bné Israël, parce que vous êtes révoltés contre la parole d'Hachem au moment de mes Mérivas. Donc il a donné l'ordre à Moshe, va accompagner Aaron, prends-le, lui, tu prends son fils, vous allez monter sur cette montagne-là, Horahar, et tu vas enlever à Aaron ses vêtements de Kohen Gadol, ça veut dire, il est allé, Moshe Rabbeinu, il est allé le chercher au boulot, quoi. Il est allé le chercher au Mishkan, après la Avoda, il l'a pris avec ses vêtements, et il l'a pris sur la montagne et il a amené Elazar et puis on a enlevé les vêtements d'Aaron et on les a passés à Elazar, son fils. Et à ce moment-là, Aaron Yasef ou Metcham. Et Aaron est mort là-bas. Alors, c'est plus une histoire, c'est comment il a pu lui mettre les vêtements. Parce que s'il enlève les vêtements d'Aaron, il ne peut pas mettre les vêtements directement sur Elazar. C'est pas le même ordre. Il ne va pas lui mettre les vêtements extérieurs avant les vêtements intérieurs, non? S'il enlève la chemise le manteau d'Aaron, il ne peut pas le mettre tout de suite sur Elazar. C'est un problème. Comment il était, Lazare? Il s'est déshabillé, il a attendu avec les vêtements. Quoi. Tel que c'est décrit, c'est marqué, tu enlèves les vêtements et tu les mets à Elazar. Alors, Viafchet Moshe et Aaron, et Begadab, il a enlevé à Aaron ses vêtements, Vayalbech Otam, et Elazar Beno. Vayamot Aaron Sham Beroshahar, comme Hachem avait ordonné. Vayered Moshe et Elazar Minahar, et du coup, Moshe et Elazar sont redescendus. Et à ce moment-là, Elazar, c'est lui le Kohen Gadol. Depuis ce moment-là, le Kohen Gadol, c'est désormais Elazar, le fils d'Aaron, donc. Va Yiru Kola Eda, Igava Aaron. Et donc, toute la communauté a vu que Aaron avait disparu. Va Yivku et Aaron Shloshim Yom, Kol Bet Israël. Toute la maison d'Israël a pleuré 30 jours. La mort d'Aaron. Alors, ceux qui ont le... Regardez. Dans le verset 26, ceux qui ont le stone, page 901, au 26, c'est marqué... D'après Ramban, après avoir effectué le dernier service de l'après-midi dans le Mishkan, encore vêtu de ses habits de Kohen Gadol, Aaron a été appelé par Moshe à gravir la montagne. En remettant ses vêtements à Elazar, il lui a également transmis la fonction de Kohen Gadol. Il dit que Rashi se reporte au Sifri Zuta pour décrire l'enchaînement des événements. Moshe Rabbeinu a conduit Aaron dans une grotte, où se trouvait un lit dressé et une lampe allumée. Il a demandé à Aaron de monter sur le lit, d'étendre les bras, de fermer la bouche et les yeux. Et en voyant cela, Moshe Rabbeinu a désiré mourir de la même manière. Et lorsque son heure est venue, Hachem lui a annoncé qu'il mourrait de la même façon qu'Aaron. C'est Mitat Neshika, c'est un baiser divin. Mais alors, la suite. Regardez la suite. Toute la maison d'Israël a pleuré à Aaron. Tous les hommes, aussi bien que les femmes, ont porté le deuil d'Aaron, qui avait recherché la paix, s'était dépensé sans compter pour faire régner l'harmonie entre adversaires, entre mari et femme. C'est Rashi. Mais Moshe, lui, il n'a pas été pleuré comme ça. D'accord? Les Bnei Israël, ils n'ont pas pleuré. Tout le monde n'a pas pleuré Moshe. Sa fonction l'obligeait à juger, voire à réprimander, et cela réduisait chez certains l'amour qu'il lui vouait. Donc Moshe Rabbeinu, il n'a pas été pleuré par Kol Bet Israël. Et que là, les Bnei Israël sont affreux. Ah, c'est insupportable. Il y a donc des gens qui en ont voulu à Moshe Rabbeinu, et donc, ils n'ont pas pleuré. Oh, bon débarras. C'est à pleurer pour le coup. C'est pas le gars, c'est David Améla qui dit qu'elle n'aura Alila. Enfin, c'est vous qui dites ça à tous les Yom Kippour. Mais en fait. Nora Alilot, c'est un télim de David Amelef. Alors on explique effectivement, là-bas c'est le Midrash, qui dit que Hachem prend des prétextes pour sanctionner les Bnei Israël. Alors une des choses, c'est que Moshe Rabbeinu, qui a dit à Hachem, mais c'était déjà décidé que c'est Yoshua qui allait faire rentrer, alors pourquoi tu fais apparaître que je ne suis pas entré en Eretz Israël parce que j'ai fauté. Bon. Et marqué, c'est Yosef là-bas. C'est un Tanhuma sur Yosef qui dit que... C'est marqué que Yosef, il a pris 2 ans de rab, 2 ans de plus de prison parce qu'il a demandé à la chanson de se souvenir de lui. C'est marqué, de toute manière, il fallait que les... c'était pas mûr encore, en quelque sorte, pour qu'il devienne, que Yosef puisse devenir vice-roi. D'accord? Donc il fallait de toute manière, il fallait qu'il attende. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est de sa faute que, c'est parce qu'il a parlé à les chansons et toute une liste de choses. Alors on dit Nora Elohim. C'est-à-dire, Baal Elotov. C'est-à-dire, Hachem prend des, ça apparaît comme si Hachem prenait des prétextes. En réalité, les choses doivent se faire selon la façon dont Hachem a décidé qu'elles se feraient, d'après la chronologie, le calendrier. Donc. Et maintenant, pour mettre en axe, comme il y a deux anagotes, il y a deux façons de gouverner le monde. Il y a gouverner le monde sans s'occuper de ce que font les hommes. Hachem a un projet et il se déroule une histoire qui va mener à la réalisation du projet, indépendamment de l'action des hommes. Mais en même temps, il y a une façon de gouverner le monde qui correspond à l'action des hommes. C'est-à-dire, le monde, ça avance ou ça avance pas, ou ça avance mal, ou ça prend des mauvaises directions qu'il faudra ensuite corriger en fonction des actions des hommes. Et donc, c'est ça les prétextes. Les actions des hommes apparaissent comme un prétexte pour que les choses se fassent telles qu'Hachem avait de toute manière décidé qu'elles se feraient. Donc c'est tout le problème du libre arbitre. Voilà, on ne peut pas entrer là-dedans. Le Rabamou qui dit que la différence entre le traitement du rocher au début de la marche à travers le désert et celui qui était prévu pour la fin de la marche, à savoir parler, là-bas frapper et parler, réside dans l'utilisation du bâton. La vraie sanctification d'Hachem par l'homme, ce n'est pas dans l'obéissance en présence du miracle, mais dans le libre consentement en l'absence de toute intervention miraculeuse. C'est ce que la Torah appelle Emouna. Il traduit conscience, acte de foi. C'est à ça qu'on reconnaît le passage du stade de l'enfance à celui de la maturité. L'enfant, il fait sous la contrainte. Donc, dans l'enfance du clan d'Israël, au début des pérégrinations, là, 40 ans plus tôt, bon, il fallait frapper. Le clan d'Israël était à l'époque où il était impressionné peut-être par les miracles, et il fallait frapper. Bon, ça c'est les Midrashim qui disent ça. Le Rambam il pense pas comme ça. Le Rambam il dit clairement que les Bnei Israël ils ont jamais cru en Moshe à cause des miracles. Si vous voulez, il faut dire les miracles ils n'ont en fait un miracle ça n'a pas de durée. L'impact d'un miracle, c'est quasiment nul. Donc ça ne permet pas de construire quelque chose. Il faut construire la maturité, c'est faire les choses en pleine conscience, et comprendre ce qu'on fait, etc. Avoir une relation de confiance. C'était ça, on arrivait à avoir une relation de confiance avec Hachem. Confiance, Emouna c'est confiance, c'est pas du tout croire. D'accord, même quand il dit acte de foi, c'est un peu. La vérité, le vrai sens d'acte de foi, c'est bien la fidélité, c'est bien la confiance. Mais pour nous, c'est tellement chrétien, acte de foi, que c'est impossible de l'utiliser. La notion de foi est tellement chrétienne qu'on ne peut plus l'utiliser ça. Donc il faut dire confiance. Et c'est intéressant parce que le mot Emouna, qui veut dire la confiance, il commence par deux lettres, Aleph Mem, qui veulent M, c'est la mère, parce que la première expérience de confiance d'un être humain, c'est envers sa mère. D'accord ? Quelque part, la Emouna, c'est quelque chose, c'est comme si on allait étendre le rapport de confiance qu'on a avec sa mère à d'autres situations dans lesquelles on n'a plus une aussi grande confiance. Que le nourrisson avait dans les bras de sa mère. c'est ça une espèce d'idée de, d'extension de la confiance de base. Il faut bien. Comment tu définis la confiance? C'est la confiance. Le seul l'exemple qu'on a, c'est la confiance de l'enfant dans les bras de sa mère. Et là-bas, c'est une confiance sans conscience, si on peut parler comme ça. Oui, il n'est pas confiant. Il est, voilà, il sait qu'il peut faire confiance. Voilà. Mais il comprend rien. En tout cas, pas avec son séchel, quoi. Peut-être qu'il comprend d'une autre manière, je ne sais pas. Et là, ce que les Bnei Israël ont toujours comme problème, c'est qu'ils ne font pas confiance. Et pourtant, Hachem, quand Hachem dit dans un paragraphe, il dit par exemple, Ani Hachem, termine le verset, Ani Hachem, regardez Rachid systématiquement, on peut me faire confiance. Je suis Hachem, ça veut dire, on peut me faire confiance. Ça veut dire, je suis Hachem, ça ne veut rien dire. Mais vous pouvez me faire confiance. C'est-à-dire, si j'ai dit qu'il y aura une sanction, il y aura une sanction. Positive, si j'ai dit qu'elle sera positive, négative, si j'ai dit qu'elle sera négative. C'est ça qu'Hachem dit à tout moment, faites-moi confiance. Et c'est ça le problème. Le problème de la Emouna, c'est est-ce qu'on fait confiance à Hachem? Évidemment, c'est toujours une opération difficile parce que la confiance, moi quand j'entends le mot confiance, je demande toujours jusqu'à combien? Non, parce que tu peux très bien dire que tu me fais confiance. Bon, ça veut dire quoi? Ils sont comme ça, tu me prêteras 10 euros. Et si tu vois que je les ai rendus une ou deux fois, tu me prêteras 100 euros. Mais il y aura une limite. Mais même si on dit que de l'argent, je te prêterai l'argent que tu veux. Mais est-ce que je te confierai mes enfants? Ça, j'ai une autre affaire. Peut-être que je ne te confierai pas mes enfants. De l'argent, bon d'accord. Plaie d'argent n'est pas mortel, mais dans le pire des cas, je fais confiance, mais même dans le pire des cas, j'aurais perdu de l'argent. Mais je ne veux pas te confier mes enfants. Je ne fais pas confiance suffisamment pour te confier mes enfants. Par exemple, il y a des gens auxquels on pourrait confier ses enfants pour une journée, pour... Il y a des gens qui ont confié leurs enfants à des gens qui ont abusé des enfants. On ne sait jamais ce qui va se passer. D'accord? Donc, si on le fait, c'est que on a jugé qu'on pouvait faire confiance. Des fois, la confiance, elle n'est pas toujours méritée. Bon, c'est à Paris, une confiance.
Mais justement, il semblerait que la confiance entre Moïse et Hachem soit là pour le coup illimitée, puisqu'il lui demande pour sa gloire, lui dit, tu seras le seul à avoir, bon, pas. Mais l'ombre, qu'est-ce que il reste 40 jours de fort. Là. Et il lui dit non, tu n'as pas.
Mais là, ici, vous n'avez pas manifesté la confiance.
Comment on peut prendre cette phrase au premier degré ici, dans le contexte de la relation qui est tout à fait singulière et qu'il n'y aura plus.
Mais peut-être que la relation de confiance, elle doit être telle que même quand je me mets en colère, je continue de faire confiance. Va faire un geste qui n'est pas de confiance.
On revient sur la colère.
Non, parce que la colère, ça veut dire être en colère, c'est être hors de soi. Si je suis hors de moi, il y a quelqu'un d'autre qui est chez moi. C'est un Yetzera qui est chez moi. Et c'est lui qui me gouverne.
Ça fait combien de fois que lui font le même coup
Asve Shalom, je ne fais pas le procès de Moshe Rabbeinu. Non, je suis avec vous, il est super, tout ce que vous voulez. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est marqué dans le pasouk. Lo eman tembi. Vous m'avez pas fait confiance. Ça veut dire, ça, vous avez fait quelque chose qui apparaît comme un manque de confiance. Et c'est souvent qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Effectivement, supposons que c'est un peu comme c'est décrit dans le Midrashim, le rocher il s'est caché dans d'autres rochers et il ne le reconnaît pas. D'accord, il n'y a pas une petite voix qui sort du rocher, c'est moi. D'accord, c'est... Il n'y a pas. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, mon cher Avinu? Supposez, voilà, vous faites confiance. Ouais. On vous a dit qu'il faut parler au rocher. Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous voyez pas quel rocher c'est, et le rocher auquel vous parlez, il vous répond pas. Vous croyez avoir reconnu le rocher, il répond pas. Qu'est-ce que vous faites? Pardon, oui. J'ai expliqué. Pour qu'il montre ostensiblement que ça ne marche pas avec le menthe. Parce que sinon, on aurait pu dire, ben, c'est encore le bâton qui agit de loin ou je ne sais pas quoi. Mais là, le bâton est là, on, ostensiblement, voilà. On, ça se fera sans le bâton. Pas vu comme un miracle. Il veut, en fait, parler au rocher sur l'ordre d'Hachem, c'est-à-dire transmettre au rocher la parole d'Hachem, c'est pas de l'ordre du miracle. C'est pas un miracle. C'est l'ordre du monde que la parole d'Hachem elle agit. C'est marqué que le monde il a été créé par Asarama Marot. Il a été créé par 10 paroles. Donc c'est 10 fois Hachem qui a parlé et les choses se sont faites immédiatement. Ici Hachem voulait montrer que désormais les hommes, quand ils parlent divinement, ben, ils sont aussi capables de le faire. C'est Hachem qui... Tout ça, ça va dans le sens, enfin, tel que je le comprends, dans le sens de d'une volonté d'Hachem d'associer l'homme à lui et de lui laisser de plus en plus d'initiatives. Et c'est, voilà, faites-le. Faites. Vous savez comment il faut faire. Je vous ai dit, faites-le. Faites les choses. Vous savez, bon, vous savez bien que c'est moi qui vous donne l'énergie, c'est moi qui vous donne la sagesse, c'est moi qui vous... D'accord? Mais alors, do it. Enfin, faites-le. Ça c'est, je crois que Hachem demande à l'homme de prendre sa place en quelque sorte. De façon idéale, on peut le dire comme ça, si vous voulez, quand Akadosh Baruch Hu a fait Shabbat, il est marqué nulle part dans le texte qu'il est sorti de Shabbat. Donc lui il est peut-être dans Shabbat, il n'agit plus. Mais il demande à l'homme d'agir. Mais il lui dit comment agir. Il lui dit il faut agir. On sait très bien que par exemple, on sait que le monde est écrit avec des lettres. Donc quand il faut construire le Mishkan, il faut quelqu'un qui sache comment on met ensemble les lettres pour faire des mots, d'accord, et donc pour construire. Bon, ben ça c'est Betzalel. Yada Betzalel, Tzaref Otiyot Shemayim Nivra Olam. Betzalel, lui, il savait mettre bout à bout les lettres avec lesquelles le monde a été créé. Donc il savait que le Mishkan devant être un mini-cosmos, il fallait les mêmes tsiroufés otiot, les mêmes lettres mises côte à côte, bout à bout, etc., pour former des mots ou des ensembles de lettres, je ne sais pas, que ce soit une gématria, que ce soit un son, tout ça c'est vrai. Et avec ça, hein, il a pu construire le Mishkan. C'est comme ça, sinon il ne pouvait pas construire le Mishkan. Et là aussi, c'est un peu la même chose, c'est le monde fonctionne avec des mots. Quand en vérité, le monde fonctionne avec des mots, il faut parler. Ah, tu me diras, tu peux, en sortant, tu peux toujours parler à ta table, tu vas voir si elle va te répondre. Bon, ben, soyez surpris, quoi. Mais bon, je ne vais pas vous montrer ça, parce que... Ben, mais... Bon, mais à un certain niveau, on peut La parole, c'est extrêmement puissant. La parole divine, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire, les Bnei Israël, désormais, ils parlent divinement, puisqu'ils parlent sur ordre d'Hachem. C'est ça, parler divinement. Moshe Rabbeinu, il pouvait parler divinement. Il aurait dû continuer de parler ou demander à Hachem, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Mais pas frapper. Parce qu'il a dû reprendre le bâton, Hachem lui avait dit, pose le bâton. Ouais.
Peut-être en se disant que même si c'est pas le bon rocher, même si je ne suis pas la parole divine qui m'a demandé de parler, mais Hachem, comme il est avec moi, il va me faire sortir de l'eau, c'est ce qu'il fait aussi. Mais c'est curieux, Hachem ne le réprimande pas là-dessus, ou là peut-être qu'il y a une faute. Parce que quand il prend son bâton, il frappe. Ici, il frappe et il parle pas, même s'il ne l'a pas trouvé.
Il a essayé de parler avant. Avant, il a parlé, mais il ne répondait pas. Ce n'était pas le bon.
Non, là, c'est de l'auto. Ici, il se dit, bon, je vais frapper. Celui-là, ça va sortir. Non, il frappe en se disant, sans doute, il y a le peuple qui est là. Hachem ne peut pas me laisser démuni devant cette assemblée qui est là contre moi. Il va me faire sortir de l'eau, de ce rocher, même si j'ai pas suivi le...
Mais il lui a fait sortir, mais après ça lui a coûté de recherche. Mais cette idée...
Mais il n'attaque pas sur la confiance. Il n'attaque pas sur le fait qu'il a fait cette erreur de se dire...
Bon. Non, mais il faut faire... C'est ça. Il faut qu'on comprenne pourquoi c'est un manque de confiance.
Oui,
c'est mais c'est ça que... Si on ne comprend pas ça, alors on ne comprend pas ce qu'il nous voulait, Hachem. Parce qu'à la limite, tu peux aussi demander où est le Mida, Keneged Mida. Puisque vous avez frappé, vous ne m'avez pas fait confiance, vous n'entrerez pas en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça. Normalement, les sanctions, elles sont Mida, Keneged Mida, oui. Mesure pour mesure. Où est le Mida, Keneged Mida là-dedans? Ça veut dire que. En Eretz Israël. Les Bnei Israël ils vont devoir apprendre à faire apparaître Hachem même là où pas là où il n'est pas mais faire apparaître clairement Hachem même quand c'est eux qui ont fait tout le travail. Ils ont labouré, ils ont semé, etc. Et ils ont eu des conditions. Voilà, et ils récoltent. Il faut dire, c'est Hachem qui a fait que la récolte était bonne. Ah, j'ai aussi mon savoir-faire, non? C'est moi qui ai su combien il fallait arroser, combien il fallait, quand est-ce qu'il a fallu moissonner et tout, il y a aussi un savoir-faire là-dedans. Non, il faut arriver à dire, c'est Hachem. Le grand exemple, c'est pas dans ce domaine-là, c'est dans le domaine de la guerre, c'est David. David qui est un grand stratège, il fait la guerre en utilisant tout son savoir-faire dans la stratégie et dans la façon de guerroyer, etc. Et quand il a gagné, il dit c'est Hachem qui a fait qu'on a gagné. Et c'est ça que les autres rois n'arrivent pas à faire. C'est pour ça qu'ils disent Hachem, écoute, fais-nous gagner la guerre, mais de telle sorte que ça nous soit facile de dire que c'est toi qui as gagné la guerre. Jusqu'au dernier, Hizkiyahou qui dit moi, si je ne gagne pas la guerre pendant que je dors, je ne suis pas. Je suis incapable de reconnaître que c'est Hachem qui a gagné la guerre, je trouverai à m'attribuer le mérite, à m'en attribuer le mérite. Alors Hachem lui fait gagner la guerre pendant qu'il dort. Et malgré tout, il trouve un moyen de s'en attribuer le mérite. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas devenu Mashiach. Être Mashiach, c'est être capable de faire le travail et d'en attribuer le mérite à Hachem. Fais le travail de toutes tes forces, mobilisant tout ton savoir-faire et tout ce que tu veux. Mais quand tu as gagné, en attribuer le mérite. Parce que c'est ça la vérité, c'est que qui t'a donné l'intelligence, qui t'a donné le savoir-faire, etc., c'est Hachem qui te l'a donné. Alors il s'agit de reconnaître Hachem. Et donc s'ils ne sont pas capables de faire un travail qui, où il s'agit de faire reconnaître Hachem, même dans des endroits où c'est juste, il a seulement parlé, d'accord, ou quasiment rien fait, alors vous n'êtes pas à même de diriger les Bnei Israël en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, ce sera ça le problème. Et c'est ça tout le problème des explorateurs, etc. Pourquoi ça, ils ne veulent pas y aller? Parce qu'ils sentent, quand ils étaient dans le pays, ils ont senti, nous, on n'a pas les moyens, on n'est pas capable de diriger le clan d'Israël dans la version Eretz Israël. Diriger le clan d'Israël dans la version bulle, on sait faire. Mais là, non, ça on ne sait pas faire. Donc, on ne va pas y aller, parce que... Voilà, on va s'arrêter là. Avant la sortie de l'Égypte. Oui, oui, il a pensé qu'Hachem allait lui pardonner.
C'est vous qui l'avez dit d'ailleurs.
Oui, oui, mais parce qu'Hachem. Mais il pensait qu'Hachem allait. Quoi?
Mais moi, je ne trahis pas. C'est vous-même qui
l'avez dit. Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est sûr que Hachem lui a dit, mais il a pensé qu'Hachem allait lui pardonner comme il a pardonné au Bnei Israël. On voyage, alors.
Je ne sais pas si vous avez des
capots. Il y a des poulets dans la rue.
Shavua
Tov.
J'ai un petit projet, je peux vous envoyer un courrier?
Oh, oui, bien sûr, merci.
Relâchez par la parole, il y avait la vieille histoire de Jacques.